temps des écrivains. Une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, une émission exceptionnelle puisque nous passons cette heure avec Mario Vargas Llosa, prix Nobel de littérature, un écrivain considérable, auteur d'œuvres inoubliables comme Conversation à la cathédrale ou La fête du bouc, de Tours et des Tours de la vilaine fille que j'adore, l'un des écrivains aussi les plus engagés de notre temps dans la littérature qui se dresse face au pouvoir. Je rappelle que son premier roman, La ville et les chiens, dénonçait la corruption morale au Pérou. Et ce livre a suffisamment inquiété la dictature militaire de Manuel Odría pour qu'une centaine d'exemplaires soient brûlés dans la cour de l'Académie militaire de Lima. L'un des écrivains aussi les plus engagés dans la politique et le plus directement possible, puisque Mario Vargas Llosa se présenta en 1990 à la présidence de la République, de son pays natal, le Pérou, face à Alberto Fujimori. Mario Vargas Llosa ne fut pas élu et c'est peut-être tant mieux pour la littérature. Bonjour Mario Vargas Llosa.
Bonjour.
Alors vous publiez votre nouveau roman, Cinco Esquinas en espagnol, traduit par Aux 5 rues Lima, avec une très belle couverture, je dois dire. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
C'est la même couverture qui a paru en Espagne, Mais on l'a colorée ici pour l'édition française. Je la trouve très bien. Je crois qu'il y a deux sujets de l'histoire qui sont là.
Alors décrivez-la nous, du coup, parce qu'avec
c'est la violence politique.
Voilà, deux jeunes filles dans un lit.
Dans cette page de journal. Et l'histoire de deux amis comme image du fond. Mais je crois que c'est une très bonne combinaison, et jolie et mystérieuse.
Voilà, deux jeunes filles dans un lit, l'une dort, l'autre a le visage caché, puisqu'elle lit le Diario de Lima, le journal de Lima, avec ce titre, En todo el país, toque de queda, couvre-feu.
Couvre-feu, c'est ça.
Dans tout le pays.
C'est parce que l'histoire est située à un moment très très difficile de l'histoire moderne du Pérou, les mois antérieure à l'effondrement de la dictature de Fujimori, qui est arrivée l'année 2000, et à un moment très difficile, parce qu'il y avait d'abord le terrorisme, la guerre civile.
Oui, le Sentier Lumineux, toujours.
Déclenché par Sentier Lumineux, et aussi par une autre organisation plus petite qui s'appelait le mouvement révolutionnaire Tupac Amaru.
Ah oui.
Il y avait une violence effroyable de la part des terroristes, mais aussi, malheureusement, de la part de l'armée, de la police. Il y avait des groupes paramilitaires qui faisaient des horreurs. Il y avait un couvre-feu qui donnait une espèce de paranoïa à tout le monde à Lima. Tout le monde avait peur d'être surpris dans la rue après le couvre-feu par des patrouilles militaires, policières. Et c'est à ce moment-là que se situe
le livre. Oui, alors donc le carrefour des cinq rues, dans le quartier Barrios Altos, l'un des plus dangereux de Lima. Donc c'est l'histoire d'un grand scandale politique et médiatique, mais aussi sexuel, qui va bientôt secouer le pays, puisque sont publiées dans la presse des photos compromettantes d'un riche et respectable ingénieur, Enrique Cárdenas. Nous sommes, vous l'avez rappelé, Mario Vargas Llosa, sous l'ère Alberto Fujimori, donc à la tête d'une administration totalement corrompue et soumise à l'emprise d'un mystérieux personnage qu'on appelle le docteur. Alors, il s'appelait Vladimiro Lenin Ilich Montesinos et c'était un ex-avocat des barons de la cocaïne reconverti en conseiller de Fujimori.
Avant, il avait été militaire. Oui. Il avait fait une carrière dans l'armée où il avait été chassé parce qu'on a découvert qu'il vendait des secrets militaires péruviens à la CIA. Et en prison, il est devenu un avocat spécialisé dans le milieu des narcotrafiqueurs.
Oui, c'est ça.
Et quand il est sorti, il est devenu très populaire parce qu'il était l'avocat des narcos. Ouais. Mais après, il a conspiré et s'est réintroduit dans la vie politique. D'abord comme conseiller de la dictature militaire de Velasco, qui était une dictature très à gauche, n'est-ce pas? Et finalement, il est devenu le conseiller principal de Fujimori. Et c'est lui qui était vraiment le responsable de la sécurité politique.
Et on l'appelle...
Il a fait des horreurs, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'il est en prison, condamné à 25 ans.
C'est ça. Et on l'appelait le Rasputin péruvien.
Oui, parce qu'il c'était le seigneur de l'intrigue politique. Ouais. Hein. Et j'écris ce roman précisément parce que je voulais montrer, je crois que c'était sans précédent, l'utilisation par un régime autoritaire de la presse des caniveaux, de la presse à scandale. Et c'est Montesinos, c'est le docteur qui a organisé ce système qui d'ailleurs était très efficace parce que l'opposition, les adversaires étaient paralysés par la peur d'être au centre d'un scandale créé artificiellement pour la presse que les docteurs dirigeaient. Toujours les dictatures ont utilisé la presse à scandale, mais je crois que jamais on l'avait fait d'une manière si systématique comme on l'a fait au Pérou, grâce au docteur.
Grâce au mystérieux docteur. Alors, on croise aussi une journaliste qui, elle, est très intègre, obstinée, qui mène l'enquête. Donc, dans ce pays que votre roman évoque très très bien, nous plonge totalement dans cette atmosphère de paranoïa, où la manipulation, les chantages, les crimes politico-mafieux ne manquent pas. Le désir non plus, et ça c'est très important, puisque c'est même avec une scène extrêmement torride que s'ouvre le livre, Mario Vargas Llosa. Et si vous me permettez, je vais en lire un extrait, parce que c'est très important de parler aussi du corps dans la littérature. Elle n'osait pas bouger, et ça c'est les vertus du couvre-feu aussi. Finalement, le couvre-feu permet aussi...
C'est une des conséquences du couvre-feu, n'est-ce pas? Oui.
Elle n'osait pas bouger, elle retenait son souffle pour ne pas réveiller son ami, qu'elle n'aille pas, en retirant son pied, faire disparaître cette sensation si agréable qui gagnait tout son corps et la maintenait tendue et concentrée. Peu à peu, elle perçut dans l'obscurité de la chambre des raies de lumière entre les persiennes, l'ombre de la commode, la porte du dressing, celle de la salle de bain, les rectangles des tableaux au mur, la femme serpent au désert de Tilsa, la chambre au totem de Sislo, le lampadaire, la sculpture de Berrocal. Elle ferma les yeux, étendit l'oreille. La respiration de Chabella lui parvenait, très faible mais régulière. Elle dormait, rêvait peut-être, et donc c'était-elle assurément qui, dans son sommeil, s'était rapprochée de son ami. Surprise, honteuse, se demandant encore si elle était éveillée ou rêvait, Marissa prit enfin conscience de ce que son corps savait déjà. Elle était excitée. Cette délicate plante de pied réchauffant le dessus du sien avait enflammé sa peau et ses sens, au point qu'à coup sûr, si elle glissait une main dans son entrecuisse, elle la sentirait toute mouillée. On lit ça, Mario Vargas Llosa, ça ouvre le livre, et on se dit finalement, le prix Nobel ne vous a pas transformé en pierre.
Non.
Littérairement.
Non, heureusement. Voilà. Vous savez, c'est pas probable, c'est sûr qu'une situation pareille aurait été possible dans une situation politique différente. C'est la violence, d'une part, d'autre, l'incertitude sur l'avenir. Les couvre-feux qui a poussé ces deux amis à expérimenter une relation qui, dans des conditions normales, je crois, elle était impensable. Et c'est une chose qui s'est passée au Pérou, particulièrement à la fin de la dictature, quand la violence d'une part et d'autre part, l'incertitude totale sur l'avenir, distorsionnait complètement les habitudes, les coutumes,
les corps, et même
sur les plans sexuels.
Ouais. Mais alors, c'est important de continuer justement à écrire l'érotisme en littérature. Aujourd'hui, on pourrait se dire que finalement,
c'est très
le
difficile,
corps est partout.
Pas, parce qu'aujourd'hui, l'érotisme était très important comme force critique et rebelle contre les préjugés, la censure. Mais maintenant que dans la plupart des pays, au moins de l'Occident, il y a une liberté sexuelle extraordinaire, alors écrire d'une manière... Ils sont originales sur ces sujets-là, est très très difficile,
n'est-ce pas? C'est le plus dur en littérature.
Alors j'ai dû travailler beaucoup plus ces épisodes-là que le reste de la nouvelle. Non,
c'est le plus dur, là, les scènes sexuelles à écrire en littérature. C'est là où on peut totalement, ça peut être l'écueil, on peut sombrer dans le ridicule, c'est vraiment le plus difficile à faire.
C'est-à-dire que si vous pensez à la grande littérature érotique du XVIIIe siècle, c'était la rébellion. C'était une manière de contester ce qui était établi du point de vue moral, du point de vue social. Et après, disons avec la permission moderne, c'est beaucoup plus difficile parce que tout ça devient caricature ou des idées reçues, n'est-ce pas? Alors il faut travailler avec beaucoup de subtilité et dans un contexte différent si vous voulez que l'érotisme prend une place importante dans une histoire.
Mais c'était important pour vous de
mettre... Pas valable ça seulement pour la littérature, je crois que c'est la même chose pour le cinéma, par exemple, pour la peinture, pour les arts en général.
Mais c'était important pour vous de travailler autant, de mettre le corps autant au centre en fait, de ce récit. On connaît vos œuvres, on sait que vous avez une écriture très charnelle, la place du corps, il tient vraiment
un statut important. Oui, mais c'est-à-dire que je crois que la littérature exprime la vie, n'est-ce pas? Exprime toutes les expériences de la vie, et l'amour, les plaisirs... sont des expériences centrales de la vie humaine, n'importe dans quelle société. Mais dans une dictature, ça prend une coloration très particulière, n'est-ce pas?
Bien sûr.
Et c'est pour ça que j'ai ouvert l'histoire avec cette scène, parce que je crois qu'elle donne un peu l'idée de l'exceptionnel. Dans ces contextes, l'exceptionnel devient... assez quotidien.
Et le statut de Nobel, finalement, ne vous lie pas les mains pour justement expérimenter ce genre de scène sexuelle.
Quand j'ai reçu le prix Nobel, j'étais déjà assez vieux pour changer. Alors je ne crois pas que le prix Nobel m'ait changé à rien, ni la manière d'écrire, ni les sujets, les thèmes de mes livres. Non, c'est-à-dire le prix Nobel vous change la vie social, non? Mais je crois que la vocation est quelque chose qui est déjà là depuis longtemps et que ça ne se modifie pas avec les prix Nobel.
Alors, on a l'impression que vous mettez avec ce nouveau livre, Mario Vargas Llosa, aussi en scène l'atroce campagne qui a été menée par Alberto Fujimori, qui était votre adversaire à l'époque quand vous aviez été candidat à la présidence du Pérou en 1990. Est-ce qu'il y a un peu de ça aussi, revenir sur cette période?
C'est ce qu'il y a, c'est... disons, ce côté de la politique que je ne connaissais pas et que j'ai découvert quand j'étais candidat. Jusqu'alors, j'avais une idée tout à fait positive de la vie politique, la politique comme une idée, un projet de réforme, de transformation d'une société. Oui, tout ça fait partie de la politique, bien sûr, mais la lutte pour le pouvoir... qui représente, par exemple, une campagne électorale, transforme les gens d'une manière que j'ignorais complètement. Le pouvoir est très, très corrupteur et la corruption commence par cette campagne électorale qui vous met près du pouvoir. Alors, la transformation de la vie politique de ces perspectives-là est vraiment incroyable. C'est le côté le plus horrible, n'est-ce pas, de la politique, la violence, les intrigues, le mensonge. Tout ça, je l'ai découvert pendant la campagne électorale. Et dans ce sens, au moins, la campagne électorale était pour moi très pédagogique. Je comprends beaucoup mieux maintenant ce qu'est la politique qu'avant.
Et pourquoi avoir attendu 15 ans pour écrire justement cette histoire?
C'est-à-dire comme écrivain des romans, oui, j'ai beaucoup attendu, mais... quand Fujimori a gagné l'élection et a été un président démocratique, je n'ai pas du tout participé dans la vie politique péruvienne. Je suis venu en Europe, je me suis concentré à faire de la littérature. C'est seulement quand il a fait le coup d'État et est devenu un dictateur que j'ai commencé à critiquer à Fujimori, comme je critique toutes les dictatures, de droite, de gauche, péruvienne ou non péruvienne. Alors c'est à ce moment-là que, malgré moi, parce que je n'aimais pas l'idée de faire de la politique encore une fois, mais je l'ai fait parce que je savais du début que la dictature serait une catastrophe pour le Pérou. Et ça a été une catastrophe terrible. Maintenant, le pays va beaucoup mieux, parce que depuis l'effondrement de la dictature, l'année 2000, on a ressuscité la démocratie, les institutions civiles, et le pays fait des progrès. Un peu comme l'Amérique latine. Mais c'est très, très important ne pas revenir en arrière, et pour ça, il faut combattre toutes les tentatives dictatorielles en Amérique latine.
Mais précisément, vous revenez en arrière avec ce livre, puisque vous revenez aux années, entre les années 90 et 2000.
Oui, je crois que maintenant, on a la distance, la perspective nécessaire pour comprendre mieux ce qui s'est passé à cette époque.
Je me suis demandé si ce n'était pas aussi, finalement, le fait de parler de la presse à scandale, utilisée comme une machine à détruire les êtres humains. Est-ce que ce n'était pas aussi parce que vous en avez, vous aussi, récemment, fait les frais, en fait, dans votre sphère privée, avec votre nouvelle histoire d'amour? Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui, combiné au souvenir des années Fujimori, du coup, a précipité l'écriture de ce livre?
C'est très différent, non? C'est presque un scandale social, disons, n'est pas politique. Hein. Je crois que ça a beaucoup à voir avec la culture de notre temps. C'est une culture qui a converti les divertissements dans les centres de la vie culturelle. Et je crois que c'est une dérive de cette orientation qui a transformé le journalisme dans une forme d'amusement, de divertissement, qui a provoqué l'existence de cette presse qui déforme la réalité, qui la transforme à travers l'exploration souvent illégale de la vie privée des gens. Ah oui, ça a été aussi pour moi un cauchemar.
Qu'est-ce qui vous a le plus choqué, justement, dans le fait que on suit votre vie privée, vos histoires d'amour?
C'est la disparition de la liberté. Vous n'êtes pas libre si vous êtes entouré des journalistes qui essayent d'entrer dans la vie privée, parce que c'est ça qui produit cette attraction morbide des gens, non? Et ça, c'est un phénomène complètement de notre temps, parce que il apparaît dans les mondes sous-développés et, en même temps, dans les pays, les sociétés les plus avancées, les plus civilisées, cultivées. Je crois que c'est une des tragédies de notre temps, cette transformation de la culture dans un spectacle de divertissement.
Vous dites que c'est un spectacle sans civilisation, à la fois une civilisation du spectacle.
Oui, c'est la négation de la civilisation, je crois. Si la culture se déforme à l'extrême de devenir un cirque, alors ça représente une crise énorme. Parce que la culture, traditionnellement, même quand elle était très élitiste, n'est-ce pas, créait une attitude critique vis-à-vis l'établissement, les institutions, les gouvernements, et c'était une fonction très importante de la culture. Si la culture devient divertissement, tout cet aspect de la vie culturelle, qui est la création d'un esprit critique, disparaît. Et une société avec des citoyens sans esprit critique est menacée de s'effondrer et d'accepter des déformations comme le populisme. Et ça, on le voit un peu partout dans notre temps, n'est-ce pas? Et je crois que l'origine, c'est cette transformation de la culture en quelque chose d'inoffensive.
On va continuer à en parler, Mario Vargas Llosa, et à parler de ce nouveau roman, Aux 5 rues Lima, qui paraît chez Gallimard. D'ailleurs, je mentionne aussi le traducteur. C'est traduit par Albert Bensoussan et Daniel Lefort. On en parle. On va continuer aussi à parler de journalisme, de culture, de ce que c'est qu'aussi le travail d'un écrivain. On va écouter votre premier choix musical. Vous avez choisi Cardo y Ceniza, chanté par Cecilia Barraza. Qu'est-ce que c'est ce titre?
Oui, elle est une magnifique artiste et une très bonne amie à moi, d'ailleurs. Cardo y Ceniza. Cardo, c'est une plante, n'est-ce pas? Et Ceniza, c'est les cendres.
¿Cómo será mi piel junto a tu piel? ¿Cómo será mi piel junto a tu piel, Cardo? Ceniza, ¿cómo será? Si he de fundir mi espacio frente al tuyo, ¿cómo será tu cuerpo al recorrerme? ¿Y cómo mi corazón si estoy de muerte? Mi corazón si estoy de muerte. Se quebrará mi voz cuando se apague. de no poderte hablar en el oído y quemar a mi boca salivada, de la sed que me quemes y me besas, de la sed que me queme si me besas. ¿Cómo será el gemido y cómo el grito al escapar mi vida entre la tuya y cómo el letargo al que me entregue cuando adormezca el sueño entre tus sueños?
Cardo y Ceniza, chanté par Cecilia Barassa, c'est le premier choix musical de Mario Vargas Llosa, prix Nobel de littérature, avec qui nous passons cette heure, ce temps des écrivains, pour son nouveau livre, Aux 5 rues Lima, qui vient de paraître chez Gallimard. Cardo y Ceniza, c'est une chanson très contemporaine, hein, c'est ça?
Très contemporaine, mais du littoral du Pérou. Non, c'est très différent de la musique des montagnes, qui est plus ancienne, ouais, et moins gaie. Ça, c'est une musique de la côte du Pérou. Il y a cette différence qui n'est pas seulement géographique, mais culturelle, musicale, artistique, entre le Pérou du littoral et le Pérou des montagnes. Non?
Alors, on est avec ce nouveau livre, 5 rues Lima, Mario Vargas Llosa, dans le Pérou des années 90, sous l'ère Fujimori. Donc, c'est le portrait d'une administration totalement corrompue que vous nous décrivez, notamment à travers cette emprise sournoise du docteur, le mystérieux conseiller du président, qui a bel et bien existé, on en a parlé tout à l'heure, Vladimiro Lenin Ilitch Montesinos, le Rasputin péruvien. C'est un portrait de ce Pérou qui va mal, ou aussi certains se rebellent. Il y a notamment cette journaliste très intègre qui mène l'enquête dans un pays qui bascule dans la manipulation, dans les chantages. Et vous nous faites un portrait du journalisme comme une arme de destruction massive des individus. Et je voulais vous demander, Mario Vargas Llosa, ce livre, il sort maintenant, hein, seulement finalement 15 ans après les événements que vous racontez. Qu'est-ce que vous pensez de ce monde où, par exemple, les hommes politiques, quand on regarde aujourd'hui, manipulent finalement tellement la fiction qu'on a l'impression qu'ils sont en train de voler leur métier aux romanciers? Par exemple, au moment du Brexit, on a entendu Boris Johnson ou Nigel Farage raconter que le Royaume-Uni versait 350 millions de livres sterling à l'Union européenne, alors que c'était faux. Et d'ailleurs, ils ont dit, bah oui, c'était faux.
Oui, j'écoutais à M. Johnson, voilà, à la télévision en Angleterre pendant la campagne pour le Brexit, dire que les contributeurs anglais donnaient de l'argent à l'Europe pour que l'Europe
vienne en aide ou
subventionne les courses à taureaux en Espagne. Ce qui était un mensonge monstrueux. Hein. Jamais les courses taureaux...
En plus, c'est le défenseur de la tauromachie qui parle, là.
Mais il voulait vraiment impressionner les Anglais dans quelque chose qui est très sensible pour les Anglais, n'est-ce pas? Les animaux, la souffrance des animaux. Alors, vous savez, j'ai vécu longtemps en Angleterre. Je n'aurais jamais imaginé le nombre de mensonges, d'inventions, de fantaisies qu'ont été utilisés pour les défenseurs du Brexit à ces moments-là.
Alors, il y a le Brexit, mais quand
c'est-à-dire que la culture ne vous défend pas contre le mensonge à l'heure de la lutte pour le pouvoir.
Hein. Exactement. Il y a aussi Donald Trump qui dit que Poutine l'a qualifié de génie, alors que Poutine a juste dit qu'il était « very colorful », très haut en couleur. Et donc, je me suis demandé, est-ce que finalement, dans cette ère, ce qu'on appelle la post-vérité, hein, ou finalement mensonge-vérité...
La post-vérité, c'est-à-dire c'est la mensonge légitimée, c'est ça la post-vérité, oui.
Et quelle peut être justement la place ou le rôle des écrivains dans un monde où finalement tout est devenu fiction, où on raconte n'importe quoi?
Je crois que la littérature a toujours montré la vie telle qu'elle est, n'est-ce pas? Alors, je crois que c'est une fonction très importante dans notre jour, parce que la confusion entre réalité et fiction est énorme et produit des monstruosités terribles, comme par exemple le Brexit, quelque chose que je crois sera, si ça ne change pas, tragique pour l'Angleterre et aussi un problème très très sérieux pour l'Europe, non?
Alors vous disiez dans votre discours de réception du prix Romulo Gallegos en 1967, la mission de la littérature est d'agiter, inquiéter, alarmer, maintenir les hommes dans une constante insatisfaction d'eux-mêmes. Il est essentiel que chacun le comprenne une fois pour toutes. Plus les écrits d'un auteur sont durs pour son pays, plus intense sera la passion qui unit l'un à l'autre. Car dans le monde de la littérature, la violence est une preuve d'amour. Vous en êtes toujours là.
C'est-à-dire qu'avec moins d'exaltation, mais les idées qui sont dans cette phrase, je les soutiens encore. Je crois que il y a dans la littérature une attitude de rébellion contre la réalité, contre le monde tel qu'il est. Sinon, pourquoi existerait la fiction? C'est parce que le monde tel qu'il est ne nous suffit pas. Nous avons besoin de quelque chose de différent, n'est-ce pas? Et c'est ça qui explique l'existence de la littérature. Alors je crois qu'à travers la littérature, nous essayons de corriger la réalité, de la perfectionner, de la molder plus à nos goûts, à nos besoins. Et c'est ça, je crois, c'est ce que je voulais dire dans ce texte-là. C'est un texte des années 60.
67.
Oui. 67.
Exactement. 67. Justement, voilà. Quand on voit que vous disiez ça en 1967, on est aujourd'hui en 2017, donc on est 50 ans après.
Oui.
Qu'est-ce qui fait que vous ayez encore le besoin, finalement, d'écrire, de raconter des histoires, de fabriquer de la fiction? Quel est le moteur, vraiment?
Vous savez, Flaubert a dit, il a écrit, hein, la littérature, c'est une manière de vivre. Et je crois que c'est ça qui fait un écrivain. Hein. Vous trouvez dans la littérature une manière de vivre que vous ne pouvez pas séparer de ce que vous faites quand vous n'êtes pas en train d'écrire. C'est-à-dire que la littérature est une manière de vivre. Tout est organisé en fonction de la littérature. Je crois que c'est une définition très exacte, très valable encore aujourd'hui de ce qu'est la vocation littéraire. Quoique j'ai fait beaucoup de choses, j'ai toujours l'impression de que la littérature prévaut sur tout le reste des choses et que ce que j'ai fait, tout ce que j'ai fait d'une manière ou d'une autre est utilisé par ma vocation littéraire pour écrire, pour raconter des histoires.
Même précisément quand vous êtes présenté à la, parce que c'est quand même inouï. Ça, qu'un écrivain, je me souviens que Platon voulait chasser les poètes de la cité.
Ouais, ouais, ouais.
Vous avez fait un geste
anti-platonicien. Parce qu'il voulait établir une dictature totale, n'est-ce pas?
Voilà.
La République, c'est la description d'une dictature totale. Alors les écrivains étaient tout à fait nécessaires dans ce monde pareil.
Mais alors,
je comprends qu'il voulait expulser les poètes de la République. Oui.
Dans son projet, c'était cohérent. Mais précisément, qu'est-ce qui vous a vous poussé, vous, l'écrivain? L'écrivain combattant, l'écrivain engagé, à vouloir briguer ce poste. Est-ce que c'était pour dans un geste anti-platonicien ou...
Cela n'a pas été vraiment mon choix. J'étais un peu poussé par les circonstances, par l'ambiance qu'il y avait à ce moment-là au Pérou, que j'étais poussé vers cette candidature. Je ne le déplore pas parce que j'ai beaucoup appris sur la politique, comme je vous ai dit, mais... Je n'ai pas ni la vocation, ni l'aptitude nécessaire, n'est-ce pas, pour être un leader politique. Ça, je l'ai découvert très, très bien pendant cette campagne électorale.
Oui, mais qu'est-ce qui vous dites, j'étais poussé par les circonstances? Mais à un moment, on peut être poussé et choisir...
C'est-à-dire que vous savez comment ça s'est passé, n'est-ce pas? Je suis arrivé au Pérou, j'habitais en Europe, mais j'allais 2-3 mois par an au Pérou. Et il y avait un gouvernement démocratique, le premier gouvernement d'Alan Garcia. Et quelques jours après... J'écoutais à la radio, à Alan Garcia, expliquer sa décision de nationaliser tous les systèmes financiers péruviens. Les banques, les assurances, toutes les institutions financières. Alors j'ai dit, c'est la catastrophe, c'est la fin de la démocratie, un gouvernement qui contrôle entièrement la vie économique, c'est fini la démocratie.
Oui. Vous auriez pu faire un livre pour dénoncer ça. Vous êtes allé
non,
beaucoup
alors
plus loin.
J'écris. Oui. C'est ce que j'ai fait. J'écris un article, j'écris deux articles. Et j'ai dit, ça sera une mesure très populaire. Parce que qui aime les banquiers? Personne. Tout le monde considère que les banquiers sont les symboles même de l'exploitation.
Enfin, en France, un ancien banquier a été
élu. Mais il ne s'est pas passé comme ça. Ça a été la grande surprise. Et qui a protesté? Pas les banquiers, hein. Ce sont les employés des banques qui sont sortis à protester parce qu'ils étaient terrorisés de devenir des fonctionnaires. C'est-à-dire d'être complètement contrôlé par le gouvernement des tours, n'est-ce pas?
Oui, mais ça, on comprend. Il y a une situation, c'est ça. Mais qu'est-ce qui fait que l'écrivain... Que
non, mais alors je vous explique.
Passe sur un plan...
Et comme moi, j'avais été le premier à protester contre la nationalisation, d'une manière totalement involontaire, je suis devenu un peu le symbole de cette mobilisation contre la nationalisation des banques. Et nous avons réussi. Nous avons réussi avec des méthodes démocratiques, pacifiques, avec des protestations un peu partout dans le Pérou. On a arrêté la nationalisation. Alors, à ce moment-là, beaucoup de Péruviens ont pensé que comme j'avais été le leader de la lutte contre la nationalisation, il fallait convertir ça dans un mouvement politique permanent. Et c'est comme ça que je suis devenu candidat. Je ne l'ai pas cherché. L'idée ne m'enthousiasmait pas beaucoup, mais j'ai dû accepter quelque chose qui était la conséquence d'une mobilisation que, en effet, j'avais lidérée. Alors, c'est comme ça que je suis devenu candidat.
C'était le Frente Democratico, c'est ça?
Le Frente Democratico, c'était l'alliance des partis démocratiques. Exactement. Qui m'ont présenté. Oui.
Et ça, vous avez été battu hein, par Fujimori. Alors,
oui,
il a été élu.
Oui,
après, il a fait de la prison.
Pas seulement par Fujimori. C'était l'alliance contre moi qui était très large.
N'est-ce pas?
C'était le gouvernement d'Alan Garcia qui me détestait. C'était la gauche, l'extrême gauche, la gauche modérée aussi, qui ne m'aimait pas du tout, n'est-ce pas? J'avais présenté un programme libéral de réforme. Et alors, ils ont trouvé que Fujimori, qui avait eu 20% dans le premier tour des élections, était le candidat idéal pour me derrotter, n'est-ce pas? Alors, c'est comme ça que ça s'est passé.
Pour vous battre.
Mais ce qui était terrible pour moi, ce n'était pas la campagne électorale qui était très longue, plus de 2 ans, mais ces 2 mois finales entre le premier et le deuxième tour des élections. Parce que je savais qu'il n'y avait aucun espoir. Mais il fallait faire la campagne, il fallait continuer, n'est-ce pas, avec les manifestations, les discours.
Et vous regrettez ça, finalement, d'avoir raté, non pas seulement l'élection, mais cette expérience que vous auriez pu avoir de gouverner un pays.
Je ne regrette pas.
Et pas gouverner des personnages.
Il n'y a pas de mauvaises expériences pour un écrivain.
Ouais.
Les pires expériences deviennent des matières premières magnifiques pour écrire là-dessus. Alors... pour me curer de cette expérience, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Les poissons dans l'eau » en racontant cette histoire. Et c'est presque un roman, n'est-ce pas, toute l'histoire de la campagne électorale dans les conditions qu'avait le Pérou à ce moment-là.
Vous avez dit que la politique est la clé de tout et qu'un écrivain, comme d'ailleurs aucun autre artiste, ne doit jamais s'en éloigner, la perdre de vue. Vous trouvez toujours que c'est encore... la chose importante quand on est un artiste, quand on crée, de jamais perdre du regard le fait politique.
C'est-à-dire que je crois que la politique est comme l'amour, n'est-ce pas, comme les plaisirs, une partie centrale de la vie. Et une littérature qui exprime la vie ne peut pas négliger complètement cet aspect. Et particulièrement si vous habitez dans un monde comme c'était l'Amérique latine quand j'ai commencé à écrire, un monde où la dictature était beaucoup plus importante que toute forme de démocratie, parce que nous avions des dictatures d'un extrême à l'autre du continent, et la dictature signifie beaucoup, beaucoup pour la vie culturelle, et particulièrement pour la littérature. C'est très différent quand vous habitez dans un pays qui est très libre, très institutionnel, où la vie, disons, a une normalité qui est inconcevable dans un pays monde à l'époque, dans les années 60, les années 50. Non, si vous habitez dans un monde démocratique, alors les écrivains peuvent avoir l'idée qu'ils n'ont pas d'obligation morale, sociale, politique du tout, et qu'ils peuvent s'isoler complètement dans un monde de fantaisie. Ça, c'est très difficile si vous venez du tiers-monde, surtout des pays qui vivent des crises, non, si énormes comme l'Amérique latine, ça fait 50 ans, non?
Alors, vous êtes un des rares écrivains, Mario Vargas Llosa, à vous définir comme quelqu'un de libéral. Vous savez que le libéralisme s'est même vu parfois comme la pire des choses, comme quelqu'un qui veut exploiter l'autre.
Ça commence à changer.
Et qu'est-ce que ça veut dire?
Particulièrement en France. Oui. Hein. Maintenant, le libéralisme a un visage très positif en France.
Oui, et puis vous parliez des banquiers tout à l'heure. C'est au fond un ancien banquier qui a été élu. Donc, vous voyez, les choses changent. Mais qu'est-ce que c'est que votre libéralisme? Comment vous définissez? Et est-ce qu'un écrivain...
C'est une évolution, n'est-ce pas?
J'étais Est-ce qu'un écrivain ne peut être que libéral?
J'étais très révolutionnaire de jeune, comme tous les écrivains en Amérique latine, n'est-ce pas? On pensait que c'était le socialisme qui vraiment était la solution de nos problèmes. Mais après, petit à petit, j'ai découvert que le socialisme n'était pas cette panacée qu'on croyait. Je suis allé à Moscou, par exemple, et la déception que j'ai eue, j'étais seulement 10 jours, mais la déception que j'ai eue, ça a été pour moi la plus grande déception politique de ma vie. Alors j'ai dit, je ne veux pas ça pour mon pays, pour l'Amérique latine, et j'ai été en train de défendre ce modèle, n'est-ce pas? Alors c'est comme ça que l'évolution a commencé, premièrement en faveur de la démocratie. J'ai découvert que c'était pas vrai que la démocratie était purement formelle. Non, qu'il y avait quelque chose d'essentiel entre la liberté d'une société et le manque de liberté. Et après, ça a été une transformation intellectuelle. C'est en lisant certains écrivains, par exemple... Même à l'époque que j'étais très à gauche, je lisais Raymond Aron. Je me souviens, j'achetais une fois par semaine Le Figaro seulement pour lire l'article de Raymond.
Oui, parce qu'on vous appelait le vaillant petit Sartre. C'était votre surnom.
El Sartrecillo Valiente, en espagnol. On ne peut pas le traduire.
Ah oui, non, c'est sûr, on comprend bien.
Mais c'est parce que quand j'étais jeune, je lisais beaucoup Sartre et j'ai répété beaucoup les idées de Sartre.
Mais est-ce que vous faites un parallèle entre la liberté que chaque écrivain doit avoir aussi pour construire son monde de fiction, ses personnages, et le libéralisme? Parce que c'est vrai que ça revient toujours quand vous parlez
le libéralisme. Le libéralisme n'est pas une idéologie dans le sens religieux qui a l'idéologie. Non, le libéralisme est une doctrine assez vaste, où il y a beaucoup de variations, n'est-ce pas? Mais je crois que tous les grands avances de la civilisation ont eu une origine libérale, de tolérance, de respect pour la différence, cette coexistence dans la diversité. Je crois que c'est un principe libéral.
Alors, on écoute votre deuxième choix musical, Mario Vargas Llosa. Alors, après Cardo y Ceniza, vous avez choisi Gustav Mahler, les chœurs et l'orchestre royal du Concertgebouw d'Amsterdam, sous la direction de Bernard Haitink. Pourquoi Gustav Mahler?
Ah, j'aime beaucoup Mahler. Je pense que c'est un des grands créateurs de notre temps. À un moment où l'expériment ne limitait pas l'ambition, je crois que c'est un compositeur d'une ambition extraordinaire, et en même temps c'était quelqu'un qui expérimentait profondément, qui a changé, n'est-ce pas, toute la mécanique musicale de son temps. J'aime énormément Mahler, et d'abord je suis très touché par la vie si triste, si dramatique, n'est-ce pas, d'un homme qui, en souffrant tout ce qu'il a souffert, était capable de produire cette musique extraordinaire qui n'est pas pessimiste du tout, au contraire, non?
Thank you.
continuer avec vous, Mario Vargas Llosa. Aux 5 rues Lima, c'est votre dernier roman, portrait de l'ère Fujimori avec ses scandales, cette manipulation politique, une enquêtrice aussi de choc dans cette époque. Il y a quelqu'un que vous aimez beaucoup, Mario Vargas Llosa, c'est Gustave Flaubert.
Moi, je ne serais pas comme écrivain ce que je suis sans Flaubert. Flaubert m'a beaucoup, beaucoup enseigné. D'abord, il m'a enseigné à quel genre d'écrivain je voulais être. C'est en lisant Madame Bovary que j'ai découvert que je voulais vraiment être un écrivain réaliste, mais très préoccupé par la forme, par la langue, surtout par la précision de l'expression, de la langue à l'heure de décrire, n'est-ce pas? Tout ça, je l'ai appris en lisant Flaubert. Et Sartre était pour moi très important quand j'étais jeune, avec ces idées de que la littérature était une forme d'action, qu'en écrivant, vous agissez sur l'histoire. Alors, pour un écrivain d'un pays comme le Pérou, était très important qu'il vous convainque que la littérature n'est pas un luxe, mais quelque chose de fondamental pour améliorer, changer, transformer la société, non?
Vous avez lu Flaubert en 1959, Madame Bovary a lu à Lima.
Exactement, en 1959, ouais. Quand je venais d'arriver à Paris, je me souviens très très bien, j'avais acheté les livres dans une librairie qui est disparue, qui s'appelait La joie de lire.
Ah, la joie de lire.
La joie de lire, oui.
Vous dites d'ailleurs que c'est Paris qui a fait de vous un écrivain latino-américain, qui vous a donné conscience de votre latino-américanisme.
Exactement.
Comment ça se fait?
Je ne me considérais pas moi-même un latino-américain quand je suis arrivé à Paris. Et c'est en France que j'ai découvert d'autres écrivains latino-américains, qu'il y avait une littérature riche, qui était vraiment neuf, et que l'Amérique latine existait, n'est-ce pas, comme une communauté qui partageait beaucoup de problèmes. Et c'est ici, à Paris, que je suis devenu un... Je me souviens qu'une revue qui dirigeait Maurice Nadeau, qui s'appelait Les Lettres Nouvelles, a consacré un numéro à la littérature latino-américaine, à cette époque, quand j'étais à Paris. Et je me souviens que la préface a été écrite par Octavio Paz, et le titre de son essai, c'était Paris, capitale de la littérature latino-américaine. Et à l'époque, c'était vrai. Comme moi, beaucoup d'autres écrivains latino-américains se sont reconnus comme latino-américains ici à Paris.
Alors, vous parliez de Flaubert. Il y a un livre que j'aime beaucoup de vous, Tante Julia et le Scribouillard.
Oui.
Où il y a énormément en fait de références à Flaubert. Alors, dans ce livre, un littérateur qui s'est structuré comme un littérateur, qui s'appelle Pedro Camacho, dispense ses conseils au jeune Marito Vargas. Donc voilà, on comprend que c'est pas très éloigné de vous. Et il lui en donne un, notamment inspiré de Flaubert, lorsqu'il lui dit: la femme et l'art s'excluent, mon ami. Dans chaque vagin est enterré un artiste. Et en fait, c'était une reprise de Flaubert dans les lettres, dans une lettre à Ernest, ouais. Feydeau. Prends garde d'abîmer ton intelligence dans le commerce des dames. Tu perdras ton génie au fond d'une matrice.
oui, c'est dans une lettre de Flaubert à Maxime Ducamp, son
ça.
Ami. Oui, oui.
Est-ce que vous avez suivi ce conseil-là?
Ça, c'est la vie privée, il ne faut pas toucher ça.
Mais c'est étonnant de la part de Flaubert de conseiller ce genre de choses. Lui qui a été, qu'on voit d'ailleurs dans les lettres, totalement animé par la vie, par le désir d'écrire, le désir des femmes.
Oui, mais c'était une vie très solitaire, n'est-ce pas? La vie de Flaubert, c'était la solitude presque totale.
L'ermite de Croisset.
Il avait une maîtresse, mais il la voyait un jour par mois. Et c'est grâce à ça que nous avons cette correspondance merveilleuse où il raconte la manière comme il a écrit Madame Bovary au cours de 5 ans, n'est-ce pas? Oui. Mais il voyait sa maîtresse une fois par mois.
C'est un bon conseil, ça, ou pas? Sans parler de votre
vie. Je crois qu'on ne peut pas généraliser. Vous savez, il y a des écrivains qui ont des vies maudites et des écrivains qui sont complètement comme des moines, n'est-ce pas? Et ils produisent des chefs-d'œuvre ou très mauvaise littérature. Je crois que on ne peut pas établir des règles valables pour tous les écrivains. Non, parce que les écrivains représentent la même diversité qu'il y a dans la vie, n'est-ce pas? Ce qui est bon pour quelques-uns, pour des autres, pour l'autre, c'est un désastre, non?
Mais pour vous, la littérature, et je parle de littérature, a quand même besoin d'être connectée sur le corps. Vous avez une langue extrêmement sensuelle, c'est important.
Pas seulement sur le corps, sur la vie courante, sur la vie quotidienne,
n'est-ce pas ? Oui, mais le corps, mais je voudrais qu'on parle un peu du corps aussi, parce que c'est vrai
si
que
vous appelez ça le tour corps,
et détour,
c'est valable.
Voilà.
Oui, tout à fait. Oui, je crois que la littérature, la bonne littérature, la grande littérature, embrasse tout ce qui fait partie de la vie, n'est-ce pas ? Alors, on ne peut rien exclure, et en même temps, rien ne peut se concentrer dans un aspect de la vie en éliminant le reste. Peut-être la poésie peut faire cette discrimination, mais je crois que le roman ne peut pas le faire. Le roman embrasse la totalité de l'expérience. Le roman est social, n'est-ce pas ? La poésie peut être individuelle, une expression individuelle, un témoignage individuel, mais pas le roman. Le roman exprime la société en mouvement, n'est-ce pas ? C'est-à-dire la relation d'une personne dans ce tissu, n'est-ce pas, social. Et là, il faut intégrer toutes les expériences comme dans la vie telle qu'elle. Oui.
Mais appelons un chat, Mario Vargas Llosa. Parfois, les gens vous présentent, et moi je ne trouve pas du tout, comme un conservateur. Vous savez, on dit libéral, conservateur. Or, quand on vous lit, justement, quand on voit la place que vous accordez au corps, au désir, les descriptions des femmes, tour et détour d'une vilaine fille, on en parlait, c'est une ode au désir impossible peut-être, mais le corps est tout le temps présent. Est-ce que ça reste aujourd'hui, parce que moi j'y vois une forme de libéralisme, si on veut, de progressisme, dans une société hyper technologisée comme la nôtre, où on a l'impression que le corps perd de plus en plus de son importance au profit du virtuel, du pixel. Est-ce que justement, c'est pas là, précisément, et vous ouvrez votre dernier livre là-dessus, dans le corps, dans la sexualité à écrire, que se niche aussi la dernière transgression de la littérature ?
Oui, c'est-à-dire que pour la littérature, c'est très important de défendre ce qui représente la vie, hein, même si cela signifie rejeter la modernité, entre guillemets, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Il y a dans la tradition des choses qui sont respectables, il faut les préserver, ils nous enrichissent et ils peuvent enrichir les nouvelles générations, non ? Oui, je ne crois pas que je suis un conservateur. Alors si je le suis, tant pis pour les ennemis du conservateur.
Non mais quand vous dites par exemple, ce n'est pas la culture qui a été démocratisée, mais l'inculture qui a été démocratisée, vous avez dit.
Oui, mais ça c'est un problème. Oui, j'écris un essai précisément sur ce sujet. Parce qu'on avait l'impression absurde, ridicule, que tout ce qui était nouveau était positif et progressiste. Ce n'est pas vrai. Il y a des choses nouvelles qui sont complètement idiotes et qui, au lieu de nous faire avancer, nous font régresser, n'est-ce pas ? Mais quand j'étais jeune, j'ai donné une importance que je crois n'a pas à cette définition, hein, conservateur, progressiste, réactionnaire, révolutionnaire. Aujourd'hui, je crois qu'on voit que ces étiquettes ne représentent pas grand-chose. C'est mieux explorer un peu une conduite, plus ou moins une attitude permanente. Et parfois, vous voyez que ces étiquettes ne servent à exprimer rien. Elles s'expliquent des fantômes, des fétiches.
Non, c'est en cela que dans le corps, je voyais dans cette description et dans ce rôle des femmes aussi dans vos œuvres, une forme précisément de progressisme, de libération face à un monde qui veut étouffer le corps.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Je crois que c'est vrai. Et c'est un des problèmes de notre temps, non ? C'est, en même temps, c'est curieux parce que c'est parce que nous habitons des sociétés plus ouvertes, plus tolérantes, qu'on a l'impression qu'on perd quelque chose qui était d'une manière étrange liée à la prohibition, au préjugé, à la limitation du passé. Non, moi je défends la liberté, mais je défends aussi ce que vous appelez le corps, hein, les désirs, les plaisirs, l'amour sensuel. Tout ça est une source extraordinaire d'enrichissement pour la vie. Alors, il ne faut pas renoncer à ça. Et la liberté doit quand même pouvoir préserver tout ça qui a enrichi énormément la vie, non ?
Et la langue, justement, vos phrases, Mario Vargas Llosa, quand vous les travaillez, quand vous écrivez, quand est-ce que vous savez que la phrase que vous venez d'écrire est bonne ?
Ah, on les sent, hein. Il n'y a pas d'explication rationnelle. Il y a des phrases que vous sentez qui expriment exactement ce que vous voulez dire, et il y a des phrases qui ne l'expriment pas, et alors il faut corriger. Voilà la leçon flaubertienne, n'est-ce pas? On récrit jusqu'à ce qu'on trouve le mot juste. Mmh. Pour moi, c'est un instinct, c'est pas rationnel. Je sens que la phrase dit exactement ce qu'elle doit dire, et sinon je corrige. Mais c'est pas facile de trouver la phrase. Parfois, il faut beaucoup refaire. Mais vous le sentez, hein. Oh, parfois, vous vous trompez también.
J'ai une dernière question et je vais oser, Mario Vargas Llosa, parce que je voudrais savoir, j'ai jamais compris ce qui s'était passé avec García Márquez. Cette espèce de coup de poing. Non, mais est-ce que c'était politique?
Avec García Márquez, on s'était mis d'accord pour ne pas rien dire. Comme ça, on travaille les historiens de l'avenir.
Hein. Donc, on ne saura rien. Non, jamais. Non, vous avez laissé, vous, un journal ou...
Je n'ai pas un mot sur ce sujet.
Merci, Mario. Bon, alors, le suspense restera entier.
Oui, le suspense reste.
Voilà. Merci beaucoup,
merci
Mario Vargas Llosa.
Merci.
Et je rappelle le titre de votre dernier livre, Mario Vargas Llosa, aux 5 rues Lima. C'est chez Gallimard et c'est traduit de l'espagnol, donc du Pérou, par Albert Bensoussan et Daniel Lefort. Deux traducteurs pour vous, Mario.
Et très bien traduit, très bien traduit. Oui, c'est...
Le prochain livre ?
Le prochain livre, c'est un livre d'essai.
Et qui s'appellera ?
Vous avez le... Ça s'appellera, je crois, probablement, La tentation de la tribu.
Ah, donc référence à Popper.
C'est ça.
Donc parler du populisme.
Oui, c'est un hommage à Popper parmi d'autres penseurs. Libéraux.
Alors, on est impatients de lire ça. Avant de se quitter, vous avez choisi un autre extrait musical, un dernier. C'est toujours Gustav Mahler et ça sera les Kinder Toten Lieder. Merci beaucoup, Mario Vargas Llosa.
Merci.
C'est le moment de retrouver notre libraire de la semaine. Ce rendez-vous vous est proposé en partenariat avec livrehebdo.fr. Alors nous sommes cette semaine avec Arnaud Coignet de la librairie Rist à Cherbourg en Cotentin. Vous avez choisi Relever les déluges de David Bosque, c'est chez Verdier.
Oui, absolument. J'ai choisi ce Relever les déluges, donc qui est un texte qui est arrivé chez nous en mars 2017. C'est un petit texte, c'est plus exactement 4 petits textes, 96 pages. Farid Imperator, Le Grelot, un onagre, qui était déjà paru dans la presse et qui sont complétés par un texte qui s'appelle Mirbel, donc qui est un inédit. Alors, David Bosque est un auteur jeune qui est né en 1973, qui travaille à Lausanne, il travaille chez un éditeur, il travaille chez Noir sur Blanc, une maison d'édition qui est en particulier spécialisée sur la littérature polonaise. Et il est auteur d'un certain nombre de romans, en particulier chez Verdier, La Claire Fontaine, et puis Mourir, et puis Sauter sur son cheval, donc qui sont parus ces dernières années. Il est l'auteur d'essais, de traductions, en particulier de Jonathan Swift. Alors, Relever les déluges, qui est un titre qui est emprunté aux illuminations de Rimbaud, c'est l'histoire de 4 destin, quatre réfractaires, quatre personnages de fiction ou réels d'ailleurs, pour le premier d'entre eux en tout cas, quatre époques de l'histoire depuis le XIIIe siècle jusqu'au XXIe siècle. Dans le premier texte, Farid Imperator, c'est Frédéric II de Hohenstaufen qui est évoqué, donc l'empereur du Saint-Empire romain germanique de 1220 à 1250 pour être très précis. Dans le deuxième texte, c'est un valet de ferme, un personnage fictif, donc du XVIIIe siècle, qui a entend une voix qui lui indique l'emplacement d'un trésor. En fait, c'est une histoire qu'il raconte pour, à un compagnon pour essayer de lui extorquer de l'argent. Le troisième texte, Le Grelot, c'est une histoire d'un maçon espagnol qui est un anarchiste, qui s'engage dans la guerre civile, dans l'armée républicaine pour combattre les fascistes, mais aussi tout simplement pour les copains, pour l'égalité. Et le dernier texte, Un onagre, c'est l'histoire d'un jeune Marseillais des années 2000, Denis, un pirate, un altermondialiste qui, avec ses amis anarchistes, part à l'assaut d'un restaurant flottant amarré dans le port de Marseille. En fait, pourquoi j'ai choisi ce texte-là ? Parce que c'est non seulement une écriture poétique, flamboyante, très érudite d'ailleurs, très dense, très charnelle également. C'est en même temps un regard sur l'histoire. Et puis c'est, au-delà de tout ça, l'exaltation de la liberté, de la fraternité, de la diversité. C'est des textes sur la transgression, sur le franchissement des frontières, sur le franchissement de la marge. C'est des textes utopiques, d'une certaine manière, mais plein d'espoir sur l'humanité avec cette très très belle écriture. C'est vraiment quatre très beaux textes.
Déluge de David Boss chez Verdier. Merci beaucoup Arnaud Coignet, la librairie Riste, 16 rue Grande Rue, c'est à Cherbourg en Cotentin. Et vous êtes en plein festival.
Et nous sommes en plein festival depuis jeudi jusqu'à dimanche soir, un festival du livre de jeunesse et de la bande dessinée.
Ça, c'est
sur la plage
important.
Verte à Cherbourg.
Eh bien parfait, merci beaucoup Arnaud et j'invite les auditeurs à découvrir votre belle librairie, la librairie Riste. Au revoir.
Merci beaucoup, au revoir.
Le temps des écrivains, c'est Avril Ventura, Lise-Marie Barré et Anne-Laure Chanel à la réalisation, Gabriel Bordron et Héloïse Alluin. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pendant un an et réécouter pendant 1000 jours sur franceculture.fr, 7 heures avec Vargas Llosa.